Laurent Verdot, membre du conseil d'administration du Yacht Club de France, anime avec Pascal, son épouse, de passionnantes émissions sur les ondes de 48 FM, la planète du jazz. Vous pouvez retrouver en podcast ces émissions sur 48fm.org. Avec l'aimable autorisation de Radio Margeride, Swing FM vous propose, durant la pause estivale des animateurs habituels de Swing Time, quelques-uns des programmes concoctés par nos deux amis.
La planète du jazz, Laurent et Pascal Verdot.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Nous avons décidé pour l'émission d'aujourd'hui de vous raconter le parcours mouvementé d'un des plus bourlingueurs des musiciens de jazz dont nous ayons entendu parler.
Oui, parce qu'il y a des gens qui restent toujours pratiquement au même endroit ou alors qui changent de ville, mais qui sont assez stables. Tandis que là, celui-là, c'est un promeneur de la vie.
Il a vraiment la bougeotte et d'ailleurs, tout ce que nous allons vous raconter dépend largement d'un magnifique bouquin écrit par le musicologue et musicien Dan Vernet et le bouquin qui est l'autobiographie de notre héros du jour qui s'appelle
Tommy Ladnier.
Le bouquin s'appelle Traveling Blues, hein, le blues du voyage en fait.
Ladnier, on pourrait croire que, vous savez, c'est ce nom français venant de la Nouvelle-Orléans. Pas du tout.
Non, il vient de la Nouvelle-Orléans, lui. Mais pas son nom, exact. Moi, j'ai pensé que ça voulait dire l'ânier, tu sais, le type qui conduit un âne, finalement. Parce qu'il y a des gens qui s'appellent l'asnier.
Oui, c'est vrai.
Et ben, pas du tout, ça vient de Ladner. Et le Ladner, qui est l'aïeul lointain de Tommy Ladnier, c'était un Suisse qui habitait près de Davos, dans les Grisons, à l'époque de Louis XV.
Alors, vous savez que c'est un endroit où on ne parle pas français, on ne parle pas allemand, mais on parle une drôle de langue qui s'appelle le romanche, qui est une langue un peu latine.
Oh, elle est un peu de tout.
Un peu de tout. Il y a une plaisanterie qui dit que le bon Dieu n'ayant plus de langue à distribuer, il a pris des petits bouts ici, des petits bouts là.
Il a secoué son sac au-dessus des Grisons.
Voilà, et ça a donné la langue romanche.
Et M. Ladner était de son état un contrebandier en sel et en tabac entre la France et la Suisse. Et il s'est naturellement fait choper par la maréchaussée de Louis XV et expédié aussi sec aux Amériques.
Ah oui, c'était très simple. Quand quelqu'un faisait vraiment du bazar, on le gardait pas en prison parce que ça coûtait bien trop cher. Non, 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 on l'expédiait très très loin en lui disant « Bonhomme, c'est ta dernière chance, tu vas te débrouiller, peut-être même, tu t'y marieras parce qu'ils expédiaient des demoiselles. »
Généralement de mauvaise vie.
Disait-on, mais quand il n'y en avait pas assez, ils les enlevaient, tranquille. Et là, ils espéraient que ces gens-là allaient faire souche. Et puis, ils allaient se calmer. En tous les cas, c'était loin.
Oui, c'était loin, puis c'est exactement ce qui s'est passé. Le nom est devenu Ladnier au fil des générations. Et l'aventure de M. Ladner a commencé au Canada et s'est terminée en Louisiane. La Louisiane de l'époque, c'est-à-dire celle qui était pratiquement tout le sud des États-Unis. Beaucoup plus tard, on retrouve la famille Ladnier, propriétaire agricole à la fin du 19e siècle, dans le sud du Mississippi. Et puis, ils émigrent précipitamment dans l'état voisin de Louisiane, parce que la propriété est tellement séduisante que le sénateur local a souhaité s'en emparer. Et comme tout ça, à cause du métissage avec les esclaves, c'est devenu des noirs, on en fait à peu près ce qu'on veut, et on usurpe joyeusement.
Alors il se réfugie, la famille, à Florentville, et c'est là que Tommy Ladnier va naître en 1900.
Il passe toute son enfance non loin de là, dans un bourg situé au nord du lac Pontchartrain, qui s'appelle Mandeville. Et comme c'est un lieu un peu touristique qui fait face à Nouvelle-Orléans, il y a des excursions, du public qui passe, et il y a des orchestres pour les loisirs. Et là, le jeune Tommy Ladnier, il est complètement fasciné par cette musique qu'il découvre, et en plus, il est encore plus fasciné par la trompette. À l'époque, le disque n'existe pas encore, mais nous allons vous faire entendre la première trace enregistrée de Tommy Ladnier. Ça se passe plus tard, naturellement, à Chicago. Il a été choisi comme accompagnateur d'une chanteuse de blues qui s'appelle Monette Moore. Le D'accord. morceau s'appelle « Le blues me mènera au tombeau ».
on va revenir à la première fois où il va jouer dans un orchestre. Eh bien, il a 13 ans seulement, et il va rentrer à l'Independence Band, le meilleur orchestre du coin.
Et oui, parce qu'à Mondeville, il y a pas mal d'orchestres, mais alors celui-là, il tient le haut du pavé. À tel point qu'il accueille en guest star, de temps en temps, sur invitation, des musiciens célèbres qui sont de l'autre côté du lac, à Nouvelle-Orléans, et parmi lesquels, on note Buddy Petit et surtout Bunk Johnson. Et Bunk Johnson, qui est pédagogue dans l'art, mais qui a déjà repéré de l'autre côté du lac le jeune Louis Armstrong, eh bien, il repère aussi le jeune Tommy Lanier et il lui donne des leçons. Il semble qu'il ait beaucoup appris de Bunk Johnson.
Et en 1917, le papa meurt. Et Tommy Lanier, qui a acquis une très grosse réputation, dans le blues particulièrement, se dit que maintenant il va aller vers des horizons qui vont lui rapporter plus, le faire connaître mieux. Et ils prennent le train, Tommy et sa mère, le train pour Chicago. Et vous savez pourquoi ?
Parce que c'est gratuit.
Ah oui, on le croirait pas. Mais le train était gratuit pour les Noirs du Sud, pour qu'ils aillent un peu peupler Chicago qu'on voulait développer.
Parce qu'il y a énormément besoin de main-d'œuvre en 1917 dans le Nord. Et tous ces gens qui remontent vers le Nord, ils vont s'arrêter à Pittsburgh, à Cleveland, que sais-je, mais énormément à Chicago.
Naturellement, c'est pas pour aller travailler en usine que Tommy Lanier y monte. C'est pour réjouir tous ces Noirs qui aiment sa musique.
Et pour rejoindre le gratin des musiciens de Nouvelle-Orléans qui a suivi le même chemin. Tout le monde se retrouve à Chicago, en fait, à cette époque. Et la musique y prend une énorme importance, d'autant plus que nous commençons à entrer dans l'ère de la prohibition et que les gangsters sont les promoteurs des endroits où on s'amuse et où on a besoin de musiciens. Tout ça, ça forme un tout, finalement.
Sacré mélange, hein.
Et parmi les musiciens de Nouvelle-Orléans qui ont émigré là-bas, se trouve le fameux pianiste Jelly Roll Morton, industrieux en diable, qui demande à Tommy Lanier de participer à une des premières séances qu'il ait enregistrées. Nous sommes toujours, comme pour le disque de tout à l'heure, en juin 1923, et c'est assez amusant de constater que ces premières traces de Tommy Lanier enregistré, arrive juste un mois après les premières traces de Louis Armstrong enregistré, lequel est déjà également à Chicago et a enregistré avec King Oliver un mois plus tôt. Voici, avec l'orchestre de Jelly Roll Morton,
Muddy Water Blues.
Thank you.
Ah, il est très, très convoité. Et comme c'est un peu Monsieur Bougeotte, eh ben, il y va avec grand plaisir d'un orchestre à l'autre.
Ah oui, ça, il se balade énormément. Et Tommy Lanier, à cette époque, nous avons souligné son affection et son talent pour le blues, il est surnommé carrément le roi du blues. Et le voilà dans un autre orchestre, le Holly Powers Harmony Band. Holly Powers est batteur et il enregistre avec Jimmy Noon à la clarinette, ce qui n'est pas rien, et naturellement, Tommy Lanier à la trompette.
Et là, vous allez entendre « Play That Thing », ce qui veut dire « Allez, joue-moi ça ». C'est un peu une façon qu'avait Tommy Lanier de se lancer complètement dans la musique avec une folle énergie.
Et surtout dans le blues, là vraiment, il s'y jette. Et vous remarquerez, en l'écoutant jouer, qu'il est presque comme un prêcheur. À force d'enregistrer pour les disques Paramount, qui sont une marque réservée aux Noirs, Tommy Lanier finit par devenir une sorte d'artiste de la Paramount et il fait la rencontre d'une pianiste particulièrement voyante qui s'appelle Lovey Austin.
Ah oui, ça c'est une sacrée nana, parce que c'est quelqu'un qui sait tout faire. Elle dirige l'orchestre, elle écrit en même temps, elle donne des ordres ici, des ordres là. Et franchement, ça marche.
Ah oui, avec elle, ça marche. C'est une femme énergique et qui ne rechigne pas à se montrer dans des équipages rutilants.
Oui, elle a une voiture absolument remarquable.
Genre la Gonda, une torpédo qui, naturellement, est généralement décapotée.
Et ça en jette. Elle en a fait recouvrir les sièges avec de la peau de panthère.
S'il vous plaît. Enfin bref, le vieux aussi est quelqu'un qui ne passe pas inaperçu. Et elle accumule les séances d'enregistrement, soit avec son orchestre, soit avec son orchestre accompagnant des chanteuses, parmi lesquelles Marinette, hein, c'est un orchestre très coté. Et son orchestre s'appelle les Blue Serenaders. Et alors à cette époque-là, dans le sillage de Tommy Lanier, il y a toujours un clarinettiste qui s'appelle Jimmy O'Brien, qui enregistre aussi pour la Paramount. Et actuellement, je me demande encore lequel des deux tire l'autre pour les affaires. Mais enfin, de toute façon, ils sont une fois de plus ensemble dans ce morceau qui s'appelle...
Traveling Blues.
Ah oui, Traveling Blues, la devise de Tommy Lanier en quelque sorte.
À Chicago, le jazz commence à prendre une telle importance que le syndicat des musiciens, qui est tout puissant, se dit finalement, c'est bien joli tout ça, ça profite aux noirs, mais nous, musiciens blancs, on n'en voit pas la couleur. Alors, il commence à se dire qu'il faudrait peut-être que les blancs se mettent un peu au jazz, comme ça, eux, syndicats, ils pourraient leur donner la préférence. Parce que vous savez, en Amérique, surtout à cette époque-là, il y avait toujours une espèce de sous-jacence pour ce qui concernait noir, blanc. Il y avait toujours ce problème-là, finalement. Et là, Tommy Lanier, il se dit, oh ben, je vais peut-être aller voir ailleurs.
Oui, puis il est assez susceptible. Hein. Tu sais, Tommy Lanier, c'est un petit bonhomme, teigneux, avec un regard. D'ailleurs, ça s'entend dans son jeu de trompette. Hein. Il n'aime pas qu'on lui marche sur les pieds. Il sent l'air du large qui passe à sa portée. En l'espèce, il s'agit de l'orchestre de Sam Wooding qui part pour une tournée européenne.
Ah, l'Europe. L'Europe, pour les Américains, c'est quand même la culture, le vieux pays. Et puis, il a eu quand même des échos comme quoi, en Europe, on était quand même moins bridés. Même, il y avait des gens qui n'étaient même pas du tout racistes. Oh, super.
Et puis, l'art nègre, comme on dit à l'époque, est à la mode en Europe.
Absolument.
Également. Alors, Sam Wooding a pensé d'abord à Louis Armstrong, mais Louis Armstrong, là, il tient tellement le haut du pavé qu'il est devenu incontournable. Il ira en Europe plus tard. Il décline l'offre, mais il recommande à Sam Wooding de prendre son compatriote Tommy Lanier, ce qui se passe. Et voilà, Tommy Lanier est parti pour l'Europe. De cette tournée incroyable, il n'y a eu qu'une séance d'enregistrement qui s'est passée à Berlin. Berlin, à l'époque, c'est l'Allemagne d'avant le nazisme. C'est tout le cinéma qui fait maintenant le bonheur des cinémathèques, par exemple. Au point de vue artistique, ça bouge beaucoup. Et donc, on enregistre à Berlin l'orchestre de Samuding. Et voilà, Tommy Lanier à l'œuvre, dans un morceau qui s'appelle
Shanghai Shuffle,
dont on connaît, nous avons passé sur cette radio, la version de Louis Armstrong et Fletcher Anderson à la même époque. Il n'y a pas que Berlin dans cette tournée européenne. J'espère que vous êtes bien assis, parce qu'à l'époque, il n'y a pas d'avion.
Alors, ils ont été en Suède.
Au Danemark.
En Autriche.
Et en Hongrie.
En Pologne.
Et en Tchécoslovaquie.
Et bien sûr, même à Paris.
Oui, mais ils sont aussi allés à Barcelone et à Madrid. Et puis après, comme ça ne suffisait pas, ils ont soufflé un mois quelque part en résidence. Et puis, ils sont partis pour la Suisse et la Russie. Attention, ce n'est pas que l'orchestre de Samuding, c'est la troupe entière, c'est-à-dire qu'il y a des chanteurs, des danseurs, de tout. En tout, ils sont 42 personnes, dont l'orchestre. Et le spectacle, donc, en Russie, s'installe à Leningrad, puis à Moscou. Et à Moscou, alors là.
Alors là, même Trotsky, vous savez, le Trotsky.
Le Trotsky.
Il vient les voir.
Il vient souvent les voir. Il va dans la même loge réservée aux dignitaires du parti, parce qu'il y a déjà des dignitaires du parti, naturellement. Et Tommy Lanier raconte qu'il est toujours habillé en noir et qu'il a l'air un poil négligé.
Enfin, la tournée se termine au bout de 11 mois.
Oui, elle se termine en Pologne, elle se termine à Danzig. Tu sais, mourir pour Danzig, c'est pas encore l'époque, mais c'est à Danzig quand même. Et là, ils rentrent tous à New York. Et après quelques orchestres d'importance secondaire, Fletcher Anderson demande à Tommy Lanier de rejoindre son orchestre.
L'orchestre de Fletcher, c'est quelque chose.
Ah, hein. C'est la référence de cette époque-là.
Habillés, tous, smoking, c'est vraiment le nec plus ultra.
C'est un effet ricochet du départ de Louis Armstrong. C'est un peu long à raconter. Mais en tout cas, voici le premier enregistrement de Tommy Lanier avec Fletcher Anderson. Fats Waller est à l'orgue. Et vous avez notre trompettiste dans le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est chaud bouillant. Ça s'appelle
The Chant. Tommy, oh ben, il fait toutes les tournées avec Fletcher, et Dieu sait que ça bouge.
Oui, parce que l'Amérique, c'est grand. L'Europe, c'était grand. Hein, mais l'Amérique, c'est très grand aussi. Alors, ça aussi, entre les résidences à New York ou ailleurs, et puis les tournées.
Et quand même, il a envie de partir. Et finalement, vous allez entendre la dernière séance qu'il fera avec l'orchestre Fletcher Anderson.
Oui, on le sent presque sur le départ. Il est d'une très grande énergie, et il marque... sa présence une dernière fois. Le morceau s'appelle
Hop Off.
Et c'est un magnifique arrangement de Don Redman. Ah, il s'en passe des choses en 3 minutes à l'époque.
Thank you.
a quitté Fletcher parce que l'Europe lui manque. Il avait tellement apprécié ça que finalement, il y va et il va rester 3 ans.
Oui, il va rester 3 ans. Au départ, il attrape le fourgon Sam Wooding. Mais une fois en Europe, il va changer d'orchestre au gré des tournées qui se présentent. Et il va atterrir dans l'orchestre Noble Sissle, où il va retrouver Sidney Bechet. On l'a pas dit tout à l'heure, on aurait dû. En fait, le point fixe de Demi Lanier dans sa vie, c'est Sidney Bechet. Ses deux copains, ils se sont connus à Chicago avant 1920, ils ont joué ensemble. Et c'est assez extraordinaire parce que Demi Lanier est le seul type que Sidney Bechet ait supporté.
Oui, autant Sidney Bechet est un merveilleux musicien avec une tendresse, une beauté, c'est fleuri. Mais par contre, quel caractère de cochon. Il avait un mal fou à s'entendre avec tout le monde. Sauf
avec Demi Lanier.
Demi Lanier.
Alors tu me diras, avec un caractère pareil, comment a-t-il pu faire la carrière qu'il a faite? Bah, justement parce qu'il était le meilleur, hein. C'est évident. Mais Demi Lanier était très bon aussi. Alors ils sont très bien entendus. C'était d'ailleurs croisé dans la première tournée européenne. Sidney Bechet tournait avec un autre orchestre. De temps en temps, ils se croisaient ici ou là en Europe. Et là, ils sont carrément dans le même orchestre, celui donc de Noble Sissle. Et dans cet orchestre, il y a un personnage qui nous tient beaucoup à cœur, parce que c'est mon professeur de trompette, de quand j'ai commencé la trompette.
C'est Arthur Briggs qui a vécu pratiquement sa vie de musicien en France, à Paris.
Oui, parce que lui, l'Europe, il ne l'a jamais quitté.
Voilà.
Quand Noble Sissle est rentré aux États-Unis, il laissait derrière lui Arthur Briggs. Et le père Arthur, comme je l'appelais, c'était absolument passionnant de discuter avec lui. Et justement, il m'a souvent parlé de Demi Lanier. C'est comme ça qu'on a une petite idée du personnage aussi, indépendamment des lectures qu'on peut faire. Voici un disque de Noble Sissle où ils jouent tous les deux, donc on peut apprécier. Arthur Briggs prend le premier solo de trompette et Demi Lanier le second. Ça s'appelle
The Basement Blues.
Mississippi, all my folks living at, and colored folks can't live much lower down than that. My poppy name is Low, Mr. Low, if you please, and he can kiss my mammy without bending his knees. A preacher man done said that low is the way, and I'm a natural born a holy roller, they say. There's lots of lowbrows, highbrows, I'm telling you the fact, and many pop-eyed pots is calling Bowleg Kittles black. Thank you.
ça continue, alors ?
Oh, bah alors là, tournée en Allemagne, en Autriche, à Constantinople, en Turquie, hein, la Hongrie, la Suisse, l'Italie. Et puis, plusieurs séjours à Paris. Ah, ça, il s'y plaît.
Et c'est là qu'il va se lier d'amitié avec Hugues Panassier, ce qui va être très important pour la suite, parce que le jeune Hugues Panassier, déjà musicologue...
averti.
Ça, c'est sûr. Entend parler de lui et se précipite à l'Ermitage moscovite, où il tombe sur un petit quartet, où le trompettiste est Tommy Ladnier.
Écoutez donc ce qu'en dit justement Hugues Panassier dans un de ses livres. « Je vis entrer un petit bonhomme à la tête osseuse, au regard ardent. Il s'assit et l'orchestre se mit à jouer. Tommy Ladnier, la tête en arrière, la trompette tendue vers le plafond, improvisa une série de chorus formidables. Sa puissance était impressionnante, très supérieure à celle des autres trompettes que j'avais eu l'occasion d'entendre jusque-là. J'étais stupéfait. En un clin d'œil, l'atmosphère s'était tendue à l'extrême. On avait la respiration coupée, c'était presque intenable. »
Eh bien, vous allez en avoir un échantillon avec un morceau qui s'appelle « Maple Leaf Rag », enregistré par l'orchestre Tommy Ladnier, Sidney Bechet, à peine rentré de son séjour en Europe. Note bien que Ladnier et Bechet, ils ont été malins dans un sens, parce qu'ils ont échappé au choc de la crise de 29, au premier choc, puisqu'ils étaient en Europe à cette époque-là. Mais quand ils sont rentrés en 32...
Eh bien, ils l'ont trouvé, la crise. Et là, plus de boulot de musicien.
Ah oui, il y en avait de moins en moins, et ça a été la pire année 32, hein, jusqu'à ce que Roosevelt commence à faire remonter la pente aux États-Unis.
Et là, les deux compères ont une idée assez surprenante. Ils décident de devenir tailleurs, ensemble. Finalement, ils ouvrent une boutique, mais ça marche pas fort. D'autant qu'effectivement, les gens ont peu d'argent. Hein.
Oui, la Southern Tailor Shop, qui se trouve en plein Harlem, elle va quand même durer quelques mois. Mais après, il faut se rendre à l'évidence, ça fonctionne pas bien. Et le pauvre Béchet, il va retourner faire de la musique pour des clopinettes un peu. Hein. Tandis que Ladnier, lui, il se retire. Il disparaît.
Ah oui, oui. On n'en entend plus parler. Et il n'a que 34 ans.
En fait, il s'est retiré dans le Connecticut. Là, il vivote. Il joue à droite à gauche dans des petits orchestres de bal. Et il donne des leçons de trompette.
Mais là, il lui arrive une grosse tuile.
Comme à beaucoup d'autres noirs de l'époque, d'ailleurs.
C'est une affaire de boxe.
Eh oui, c'est le championnat du monde.
Entre un boxeur noir.
Joe Louis.
Et un boxeur blanc.
Max Melling. Et ce boxeur blanc est allemand, est totalement soutenu par la propagande nazie de l'époque. Et Goebbels, à distance, fait de ce combat la grande épreuve qui va avoir triomphé la race supérieure sur les races dégénérées. Alors évidemment...
Tous les noirs, parce qu'il y a énormément de paris, bien sûr, ils vont parier sur leur champion, et Tommy Lanier comme les autres.
Comme les autres, lesquelles économies qui lui restent, il va les mettre sur la tête de Joe Louis. Et malheureusement, c'est d'ailleurs exactement comme pour Marcel Cerdan, Joe Louis se fracture la main et perd le combat.
Oui, là, il n'y a pas de triche ni rien, il s'est fracturé la main.
Heureusement, de l'autre côté de l'océan, Hugues Panassier, le musicologue, qui constate avec amertume que la crise a totalement rayé le style Nouvelle-Orléans, de la carte culturelle jazzistique, décide de faire un effort, s'embarque pour l'Amérique avec l'idée d'enregistrer de nouveau de Nouvelle-Orléans. Il débarque chez son ami Mesereau, chez qui il habitera à Harlem, et leur idée, c'est de faire venir dans ses séances Sidney Bechet, qui est là, qui y trouve tout de suite, et Tommy Ladnier. Mais Tommy Ladnier est introuvable.
Alors finalement, ben...
Finalement, ils l'ont trouvé quand même, parce que, en désespoir de cause, ils ont commencé à faire tout Harlem en s'arrêtant dans toutes les salles de billard pour demander si quelqu'un connaissait Tommy Ladnier. Et ça marche. Et finalement, 3 jours après, Tommy Lanier se présente en personne.
Et ça va devenir les Panassier Sessions.
Une séance d'enregistrement tout à fait extraordinaire, surtout à l'époque, elle détonne complètement par rapport au climat, parce que c'est vraiment le retour de Nouvelle-Orléans. Voici un des enregistrements des Panassier Sessions. C'est un blues qui est chanté par Teddy Bunn, le guitariste. Ça s'appelle...
If You See Me Coming.
Raise your window high. If you see me coming, raise your window high. And if you see me going, hang your head and cry. Thank you.
Ouais, bah, c'était un vrai blues. Et tu sais pourquoi ils enregistraient ce blues? Parce qu'ils avaient un peu ramé sur le morceau précédent, qui, l'atmosphère était un peu tendue, et que Teddy Boone avait dit, allez, joue le blues. Et sur le blues, tout le monde se retrouve, finalement. Et puis, en parenthèse, à ces Panache Session, a lieu une autre séance d'enregistrement, organisée par un impresario américain, qui n'avait pas de mots assez durs pour critiquer l'initiative d'Hugues Panassier. Il avait pris les mauvais musiciens, il avait enregistré les mauvais morceaux, il n'y connaissait rien, et de toute façon, les Européens n'y connaissent rien de rien.
Et pourtant, finalement, il a pris le même orchestre, dites donc.
Il prend exactement les mêmes, et il ajoute une chanteuse de blues, d'ailleurs excellente, qu'ils vont accompagner. C'est la dernière séance d'enregistrement de Tommy Latnier. C'est pas un testament musical, parce qu'il n'était pas comme ça, mais c'est vraiment quelque chose de tout à fait émouvant. Il y a un très joli soutien de trompette derrière le solo de clarinette de son copain Mesereau, chez qui il habitait d'ailleurs à l'époque. Et le morceau s'appelle...
Stop It Joe.
Stop it now. Won't you stop it? I don't mind dancing till the band gets through. You got to stop that wiggling till I mean. Stop that wiggling with me. Oh, stop it, Joe. On the level, take it slow. You little devil, listen, Joe. You got to take your time. I know what's working on your mind. Stop it, Joe. What's this all about? Ain't nothing doing. What you thinking about? Don't mind dancing till the band gets through. You got to stop that wiggling too with me. Take it easy, Joe. Your time. I know what's working on your mind. Oh, stop it, Joe. What's this all about? Ain't nothing doing. What you thinking about? I don't mind dancing till the band gets through. You gotta stop that wiggling too with me. Take it easy, Joe.
Mais pour conclure cette émission, on va faire un petit retour en arrière de quelques mois, car les fameux concerts du Carnegie Hall organisés par John Hammond, qui s'appelait From Spiritual to Swing, avaient besoin de représentants de style Nouvelle-Orléans. Et parallèlement à l'initiative d'Hugues Panassier, que Hammond connaissait parfaitement, Hammond décide de demander à Tommy Lanier et à Sidney Bechet de tenir ce rôle dans ce fameux concert. Et là, il se passe quelque chose dans ce que vous allez entendre, c'est que Tommy Lanier est en public, c'est le seul enregistrement public qu'on ait de lui. Il y joue différemment de ce qu'il faisait en studio, et même si c'est pas très bien enregistré avec les techniques de l'époque, on entend enfin ce qu'on pourrait appeler la voix de la trompette de Tommy Lanier, la vraie.
Et naturellement, tout ça, ça se passe avec son vieux copain Béchette.
Et le morceau est assez ébouriffant. Vous allez entendre un weary blues absolument décoiffant. Mais c'est vraiment le chant du cygne.
Oui, parce que avec sa manière de vivre, qui était un peu « je brûle la chandelle par les deux bouts hein. », eh bien, il va mourir de vieillesse à 39 ans.
Et oui, quelques mois après, son cœur s'est arrêté de battre, tout simplement. Maison a fait une collecte pour pouvoir l'enterrer dignement. Et Tommy Lanier a laissé derrière lui énormément de regrets parce que c'était un personnage intelligent et profondément attachant.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.